Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, je vous proposerai une interview de Lucie Feutrier de l'Ordre de Malte France au sujet du rapport 2011 sur les centres de rétention administrative. Et puis ensuite, ce sera le tumulte musical avec notamment le retour de la colonne de Ruti. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1128. Jean au micro, salut. Et pour commencer donc, un reportage où il sera question de centres de rétention administrative. Reportage. Centre de rétention, des mots qui sonnent étrangement et qui désignent ces lieux de privation de liberté des étrangers en situation irrégulière, dans le but de les reconduire dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où ils sont réadmissibles. Dans notre région, il existe deux centres de rétention, Léquin pour le Nord, Coquel pour le Pas-de-Calais. À Léquin, les personnes en rétention sont principalement des Tunisiens, Algériens ou Marocains. À Coquel, elles sont principalement des migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne. Ils sont Albanais, Irakiens, Afghans, Vietnamiens, Soudanais. Le centre de rétention de Coquel a cette particularité d'être dans l'enceinte même de l'hôtel de police. Cinq associations interviennent dans les centres de rétention pour défendre les droits des étrangers. À Léquin, il s'agit de l'Ordre de Malte, à Coquel, France Terre d'Asile. Comme en 2011, les cinq associations viennent de publier un rapport sur l'année écoulée. Nous avons interviewé Lucie Feutrier de l'Ordre de Malte France le 22 novembre à Lille. Entretien.
Donc, je suis responsable de la coordination nationale pour les centres de rétention pour l'Ordre de Malte France.
Pour la deuxième année, les cinq associations qui interviennent dans les centres de rétention administrative publient un rapport annuel. Donc il y a eu le rapport 2010, voici le rapport 2011. Est-ce que vous pouvez en donner les grandes lignes ?
Alors effectivement, un deuxième rapport commun, assez dense. Donc nous faisons état d'un bilan factuel, bien entendu, et puis aussi d'un bilan très critique à l'égard de l'année 2011, qui pour nous a été une année hors norme. Alors peut-être pour vous donner déjà quelques chiffres. Donc pour 2011, le nombre donc d'éloignements en France, c'est 64 247. Donc c'est important et il faut bien distinguer l'outre-mer de la métropole, puisque c'est deux choses différentes. En outre-mer, c'est 31 300 éloignements et en métropole, 32 900. Voilà, donc sur des territoires petits comme l'outre-mer, vous en avez autant qu'en métropole. Donc c'est vraiment que le phénomène est massif depuis l'outre-mer. Et ce qu'il faut bien distinguer, c'est le bluff en fait qui est vraiment fait au niveau des chiffres. C'est que sur 32 900 éloignements, en fait à l'intérieur, il y a beaucoup d'aides au retour volontaires. Ça représente 15 000 mesures et notamment beaucoup à l'égard de Roumains et de Bulgares. Et à côté de ça, vous avez un deuxième chiffre, celui de 17 000 éloignements forcés, donc qui sont réalisés en métropole. Au niveau du nombre de personnes placées dans les centres de rétention en France, c'est massif. On est à 51 300 personnes exactement. Là encore, il faut bien distinguer l'outre-mer de la métropole, puisque en métropole, c'est 24 200 et en outre-mer, 27 000. Donc, beaucoup plus de personnes placées sur des petits territoires en outre-mer où là-bas les conditions sont vraiment extrêmement difficiles. Des personnes, par exemple, au centre de rétention de Mayotte dorment à même le sol sur des paillasses. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en métropole. Alors, par rapport au nombre de personnes libérées depuis les centres de rétention, puis au nombre de personnes éloignées, quel est le taux d'éloignement ? Eh bien, c'est un taux qui est assez faible pour les autorités puisqu'il est de 40% et 56% des personnes vont être libérées. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux qui va passer dans un centre de rétention va être remis en liberté, soit parce que sa procédure va être annulée par un juge, soit parce que l'administration ne va pas réussir à exécuter la mesure d'éloignement parce qu'elle n'aura pas de laissez-passer qu'elle va pouvoir négocier, soit encore pour d'autres petites raisons. Donc ça, c'est par rapport au destin de ces personnes. Sur les nationalités, pas de surprise, la première, les Tunisiens, on en a beaucoup parlé en 2011, c'était une nationalité très ciblée, délibérément, hein, ils ont fait l'objet de vraiment d'interpellations discriminatoires pour beaucoup d'entre eux. Les deuxièmes, ce sont les Marocains, les troisièmes, les Algériens, et la quatrième nationalité, les Roumains, donc qui remontent au niveau des nationalités, 6% ils représentent, donc leur nombre a triplé en 3 ans en rétention. C'est aussi une population très ciblée, peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure sur les critiques qui ont été faites à cet égard. Enfin, parlons très rapidement des familles en rétention, toujours un sujet d'actualité en 2011, puisque c'est 100, donc 60 familles là-bas dans les centres de rétention, contre 178, ça représente 312 enfants, c'est encore beaucoup pour l'année 2011. Donc voilà pour les quelques chiffres.
Est-ce qu'il y a un profil de la personne mise en rétention, puis éloignée éventuellement ?
Alors, le profil qu'on retrouve hein, en 2011 comme en 2010, c'est plutôt une personne d'origine maghrébine, donc de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc, qui est très jeune. Ce sont des jeunes hommes qui ont entre 18 et 35 ans, vraiment très majoritairement, et qui vont être reconduits dans leur pays d'origine et dans quelques cas vers un pays où ils vont être réadmissibles, par exemple les Tunisiens en Italie.
Votre rapport sur l'année 2011 procède aussi à une analyse critique, comme vous le dites. L'année 2011, elle est marquée par la mise en place de la loi Besson, juin 2011.
Oui, tout à fait. Alors voilà, ça a été vraiment pour nous, intervenants en centre de rétention et pour les personnes retenues, bien sûr, un événement marquant. Cette loi, donc du 16 juin 2011, elle a pour objectif, hein, c'est l'administration, son objectif, c'est vraiment de rendre plus efficace le système d'éloignement, le système de rétention pour augmenter le taux de reconduite à la frontière. Alors, plusieurs outils vont être mis en place et vont venir durcir vraiment la donne. Le premier outil, c'est le recul de ce fameux juge des libertés de la détention à 5 jours au lieu de 2, donc c'est beaucoup, qui va permettre en fait à l'administration d'esquiver un peu son contrôle, puisqu'il était à l'origine de 25% de libération auparavant. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'application donc, de cette loi, il y a eu un nombre plus restreint de personnes qui a pu voir ce juge. Résultat, l'administration et surtout la police ont été moins contrôlées à partir de l'application de la loi Besson. Et c'est vraiment très compliqué puisque ce juge judiciaire, son rôle est essentiel parce que c'est le garant des libertés et des droits des personnes. C'est lui qui va contrôler la régularité de la procédure, de l'interpellation jusqu'à la mesure de rétention et qui va vérifier que les droits ont été respectés et qu'ils ont été conformes à la loi.
Autre aspect de la loi Besson, la durée de mise en rétention maximale qui a été augmentée.
Tout à fait. Donc c'est effectivement une autre mesure. 45 jours désormais au lieu de 32. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2003, on n'était pas à 32 jours. On était à beaucoup moins. Donc on augmente, si vous voulez, à chaque réforme, la durée donc de cette rétention. Elle arrive à 45 jours. C'est également un élément que nous contestons à 5 voix. Parce que cet allongement est inutile. Il est vraiment créateur de souffrances supplémentaires. On a pu voir effectivement en 2011 que le taux de reconduite était de 40%, alors qu'il était de 41% en 2010. Donc c'est bien que cette mesure qui a été donc notamment pour augmenter le taux de reconduite n'a pas marché. Et sur les personnes, c'est un impact. Derrière ces lois, derrière ces textes, il y a des personnes. Et évidemment, pour elles, de rester plus longtemps en rétention, ça va être extrêmement délicat, c'est source d'énervement, c'est source de drame. Il y a des personnes qui vont très mal le vivre, qui vont tenter également le pire. Ça a un impact humain considérable.
Un dernier aspect peut-être de la loi Besson, la question des IRTF, oui. Interdiction ou retour sur le territoire français.
Oui, tout à fait. Les IRTF, donc comme on l'indique dans notre jargon, ce sont aussi des nouvelles mesures. Désormais, l'administration a la possibilité, lorsqu'elle prend une mesure donc d'obligation de quitter le territoire, de la sortir, si elle le souhaite, de cette interdiction de retour, qui va avoir des effets considérables, des conséquences vraiment très lourdes, parce que cette interdiction peut aller jusqu'à 5 ans. Donc c'est beaucoup. Et elle va empêcher en plus la personne de revenir non seulement en France, mais dans n'importe quel autre état de l'espace Schengen. Donc si la personne, imaginons, elle a de la famille en France, elle ne va pas pouvoir revenir en France pour faire valoir ses droits familiaux. Et si, par exemple, elle a de la famille en Allemagne, elle ne va pas non plus pouvoir revenir en Allemagne. Donc ça a des conséquences vraiment lourdes. Et puis surtout, ce qu'on a pu constater au niveau des associations, c'est une application totalement disparate au niveau du territoire français. Il y a des préfectures qui l'ont très 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 peu utilisée. localisée. Je pense, nous, nous intervenons au niveau de la Moselle ou du Bas-Rhin, et puis d'autres qui l'ont un peu plus utilisée. Par exemple, à Lille, c'était une mesure sur deux au départ qui était utilisée. En Seine-Saint-Denis, c'était quasiment automatique. Donc, il y a eu une hétérogénéité. Puis aujourd'hui, ça s'est plus calmé, puisqu'on a eu un avis du Conseil d'État qui est venu un peu rétablir les choses. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette mesure, elle a des conséquences lourdes et que son application n'a pas été bien accompagnée par l'administration française.
Alors vous l'avez noté, deux populations ont été ciblées, les Tunisiens et les Roumains.
Alors là, c'est vraiment aussi quelque chose que nous avons fortement développé dans le rapport. Pourquoi ? Parce qu'avec les Tunisiens et les Roumains, c'est en fait comme ça que une grande part des objectifs chiffrés ont pu être atteints par l'administration. Or, c'est un peu comme un bluff finalement, puisque la plupart de ces personnes ont une liberté de circulation dans l'espace Schengen. Les Roumains, parce qu'ils sont membres de l'Union européenne, peut-être dans un régime transitoire, mais quand même membres de l'Union européenne avec une liberté de circulation, et les Tunisiens, parce que la grande majorité d'entre eux disposaient notamment d'autorisations de séjour italiennes qui leur permettaient également de circuler. Alors il y avait d'autres conditions qu'ils n'avaient pas toujours, mais quand même, une liberté de circulation relative, si bien que les Roumains qui repartent en Roumanie ou les Tunisiens qui sont réadmis en Italie, on voit bien ici que ces personnes peuvent facilement revenir, et donc finalement qu'elles ont été ciblées uniquement pour faire du chiffre. Voilà. Et en plus, ce qu'il faut noter par rapport à ces catégories de personnes, c'est que très peu vont voir le juge parce que la grande majorité vont être reconduites, donc soit vers l'Italie pour les Tunisiens sous forme de réadmission, soit les Roumains vers la Roumanie, dans les premiers jours de la rétention, donc sans pouvoir voir ce fameux juge judiciaire notamment.
Alors dans ce rapport, vous exprimez la nécessité d'une réforme profonde, urgente de la politique de rétention. Vous parlez d'alternative à la rétention, vous parlez d'une seule voix, les 5 associations.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on essaye de sensibiliser un maximum les autorités à la nécessité de se mettre en conformité avec nos engagements européens, notamment que la rétention soit une exception, parce qu'aujourd'hui, elle est toujours utilisée de façon automatique, de développer d'autres solutions, notamment des alternatives. C'est ce que la directive Retour nous ordonne de faire, alors qu'en France, la seule alternative qui existe, c'est notamment la fameuse assignation à résidence. Et la loi est vraiment très peu loquace par rapport à cette mesure. Et puis, l'administration l'utilise très, très, très rarement. Ce qu'on souhaite, c'est déjà qu'il y ait une réflexion sur la question des alternatives et puis que la rétention soit bien entendu moins utilisée.
Alors avec le changement de gouvernement en France, l'arrivée de la présidence de François Hollande, est-ce que vous avez noté des changements significatifs ?
Alors, ce qu'on peut dire, je pense, globalement, c'est que on n'a pas senti profondément sur le terrain un changement radical de cap, puisque on est toujours sous le coup de la même loi qui a été passée au mois de juin donc par le gouvernement précédent. Donc la même chose s'applique. En revanche, nous avons noté des premiers pas, notamment une circulaire du 6 juillet qui vient rétablir les choses par rapport aux familles, c'est-à-dire qui dit très clairement que les familles doivent être toujours, dans un premier temps, assignées à résidence et non pas mises en rétention. Donc c'est une première. Et c'est vrai qu'en 2012, on sent depuis l'application de cette circulaire moins de familles en rétention. Donc c'est un premier pas, il faut le souligner, il faut s'en féliciter. C'est une première chose. Par rapport à la question de la garde à vue, c'est vrai qu'il y a un premier texte qui a été déposé à la fin du mois de septembre pour également se mettre en conformité avec nos engagements. Ce sont des premiers pas, des premières mesures, mais pas des réflexions profondes sur l'ensemble du système d'éloignement. Et c'est vrai qu'on attend plus.
Alors une dernière question, l'ordre de Malte intervient dans notre région au centre de rétention de l'Équin, sur le Pas-de-Calais à Coquel, c'est France Terre d'Asile. Est-ce que la publication du premier rapport et puis ce rapport qui vient de paraître, est-ce que concrètement ces rapports ont eu un effet au quotidien dans les centres de rétention?
Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que la première finalité des remarques qu'on peut faire aussi au niveau local, c'est qu'il y ait des changements. C'est aussi ça le but. Alors au centre de rétention de Lille, il est vrai qu'il y a eu un nouveau chef de centre qui est arrivé à la fin du mois de septembre 2011, qui a été sensible, j'ai envie de dire, aux remarques que l'on a pu faire dans le rapport. Alors bien entendu, il y a eu des discussions sur ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont été faites, puis d'autres qui restent encore un peu en attente. On espère que ça sera encore mieux l'année prochaine.
C'était Lucie Feutrier de l'Ordre de Malte France, interviewée le 22 novembre à Lille. Musique Laurie Anderson. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. À suivre un tumulte musical.
My hair's on and about you. crystal blue. Well, oh, baby, my hair's on end about you.
Vous avez reconnu Syd Barrett en 1970, extrait de l'album The Madcap Love, et le morceau s'appelle Terrapine. Et maintenant, une nouveauté ancienne, je vous donne l'explication, puisqu'il s'agit en fait d'un enregistrement de Dorothy Column, c'est-à-dire Vinnie Reilly, un enregistrement de 1983, mais qui ne paraît que ces jours-ci, et l'album s'appelle Short Stories for Pauline, ou Pauline. Voilà, Colonne Dorothy, donc, premier extrait, At First Sight.
Thank you.
The Dorothy Colon, ici, c'était un enregistrement de 1980. Le morceau s'appelle Sketch for Dawn. Retour à l'enregistrement de 1983 qui paraît en 2012, donc Short Stories for Pauline, deuxième extrait, Destroy She Said. Colon Dorothy, toujours avec le morceau It's No Good Trying. Thank you. Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. C'était à nouveau Syd Barrett, extrait de l'album de 1970 The Madcap Laughs. Et puis le morceau s'appelle It's No Good Trying. Quand on écoute une fois Syd Barrett, on a envie de que ça continue. Fred Friss, musique du film de Thomas Riddlesheimer, consacré à l'artiste Andy Goldworthy. Rivers and Tides.
Yeah. play the game till there's too much power and too little brains. Use it up, throw it away, and make a fresh start. That's too much power and too little heart. So much to do and so little time. What the eye doesn't see, the heart won't mind. If they don't die here, they could die any time. So much to do and so little time. Too much power and too little brains. Doesn't everybody feel fear and pain? So how come we make the same mistakes again and again and again and again and again? And again?
C'était un extrait de l'album The Letter de la formation Cosa Brava, l'une des formations de Fred Friss, avec Carla Kilstedt au violon, Zina Parkins accordéon, clavier et harpe, Shahzad Ismaili à la basse et Mathias Bossi aux percussions. Juste auparavant, c'était encore Fred Friss, extrait de l'album Cheap at Half the Price. Parution en 2012 d'inédit du groupe Cannes au sein du coffret intitulé The Lost Tapes, extrait Grau Blau. We'll be right back. Le groupe Can en 1969, donc extrait des inédits The Lost Steps. Musique tumultueuse sur le 99.9. Libre, sans pub. PFM. Thank you. Maybe I was a pilot, c'était ZX. Suivi maintenant de Godspeed You, Black Emperor, extrait de leur dernier album, Alléluia, Don't Bend Ashent.
Thank you.
C'est avec la musique tumultueuse et qui vous soulève immanquablement de Godspeed You Black Emperor que se termine ce tumulte musical. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h et à 16h30 et à 23h et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut.